Salut à tous, bienvenue sur Poste et Fondation, le podcast immobilier pour celles et ceux qui cherchent à se lancer dans l'immobilier ou approfondir leur savoir sur le marché immobilier à l'aide d'échanges avec des experts du domaine. Ce sont les premiers épisodes d'une longue série, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous pour nous aider à grandir. Bonne écoute.
Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Aymeric Georget, qui est investisseur, entrepreneur et athlète. Parce que il faut savoir que j'ai rencontré Aymeric par pur hasard en Corse lorsqu'il venait d'accomplir le GR20. Donc c'est pas rien, c'est le rendez-vous des randonneurs de l'extrême. Salut Aymeric, comment tu vas ?
Salut Stefano, ça va très bien, merci pour l'invitation et un plaisir d'être ici.
Merci à toi. Donc là on est à Paris, qu'est-ce qui t'amène à Paris aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui je suis à Paris parce que je dois aller de l'autre côté de la France et ouais. Vu que je vis à La Rochelle, c'est très mal desservi, on est obligé de passer par la capitale pour du boulot et pour une Spartan Race. On continue dans le côté sportif la semaine prochaine à Estérel.
J'ai bien fait d'insister sur le côté athlète. Aymeric, pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Tu commences à avoir une petite communauté sur les réseaux. Je pense que voilà, ça mérite quand même que tu te présentes. Donc, qui es-tu ? Comment est-ce que tu as démarré dans l'immobilier ?
Alors, du coup, je m'appelle Aymeric Georget, j'ai 25 ans, je vis à La Rochelle et j'ai commencé l'immobilier sur un burn-out scolaire. Moi, à mes 9 ans, je voulais être avocat, pénaliste. Mmh. Bon, alors, c'est pas le meilleur exemple sur le côté politique, mais sur le côté pénal, Dupond-Moretti était un de mes mentors, entre guillemets, et idoles. Et sauf que quand je suis arrivé à la fac de droit, grosse désillusion. Et le process déjà d'apprentissage, c'était pas fait pour moi, le par cœur. Et après, j'ai fait un burn-out. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'aime ? Les voyages, la liberté. Et forcément, ce qui a popé dans mon esprit, c'est l'entrepreneuriat. Mmh. Donc, je me suis un peu cherché avec du dropshipping, ce qui ne m'a pas convenu. Et après, je suis tombé sur un truc qui me parlait davantage, qui était l'immobilier.
OK, super intéressant. Et tu as fait combien d'années de droit, du coup ?
J'ai une licence en droit.
T'as bouclé ta licence de droit.
Ouais, mon burn-out, c'était fin de deuxième année. Ouais. Et la dernière année, j'avais deux copines qui me prenaient les cours. Okay. Et je leur disais, bon, si tu peux y aller pour moi en cours magistraux, ça serait top. Mmh. Et je suis juste allé au cours obligatoire. Je l'ai eu à 10,1, je l'ai pris et c'est ciao.
Bravo, parce que franchement, il offre pas la licence de droit.
Hein. Non, non.
Donc la troisième année, t'as vraiment serré les dents.
Ouais. J'ai serré tout ce qu'il fallait pour l'avoir. Mmh. Et en vrai, j'ai compris qu'après, mais ça m'a aidé, notamment pour avoir une carte T. Bah, une licence en droit, ça aide.
Ouais, donc, ouais. Ah, bah, 10, du coup, c'est vrai. Incroyable, ok.
Comme quoi.
Chacun a un parcours différent pour obtenir la carte T. Hein.
Et pourtant, je suis pas légitime, j'ai pas fait de droit immobilier. Il y en a qui ont fait un BTS IMO, ils sont moins légitimes, enfin plus légitimes que moi, et ils l'ont pas. Enfin, c'est fou.
Ouais, c'est le système est un peu mal foutu sur ça, je te l'accorde. Ok, et donc le dropshipping, ça a duré combien de temps ?
Ça a duré, allez, peut-être un mois, deux mois, grand maximum. Mmh. J'ai pas du tout des appétences et des compétences geek. Mmh. Moi, dès qu'il y a erreur 404 sur mon PC, je suis une crise d'épilepsie, donc c'est pas bon. Ouais. Et j'aimais pas aussi le côté éthique de t'achètes à 2 euros, tu revends à 20 euros juste parce que t'es bon marketeur. Mmh. Ça me dérangeait un peu et ça me stimulait pas. Et j'ai compris que tous les business que je fais, ça me stimule énormément. Et c'est ça qui fait que je suis résilient et que je pense qu'après, je deviens bon au fur et à mesure des expériences.
Ouais, le dropshipping, c'est super barbare hein, comme domaine. Hein. Faut vraiment, la seule chose qui te stimule, c'est vraiment le cash que tu fais derrière. Mais sinon, le business en lui-même, il a
rien.
C'est difficile de mettre du sens en fait, autour du dropshipping.
D'accord.
Ok, et donc tu as découvert l'immobilier, ça s'est fait comment ? Par des itérations successives sur YouTube
C'est un peu comme Insta, il a très vite compris que l'entrepreneuriat, ça commençait à me titiller. Et je suis tombé sur les premières vidéos, je pense que c'est Olivier Seban, Michael Ferrari, tu vois, les anciens. Puis après, je suis tombé forcément sur Wengen qui a une très belle couverture sur ces plateformes.
Ouais.
Et après, j'ai passé le pas, j'ai annoncé ça à mes parents le jour de Noël. Salut, au fait, j'arrête les études. Avocat depuis 10 ans, que je vous le dis, bah, c'est fini. Mmh. Maintenant, je veux faire de l'immobilier. Et j'ai de la chance d'avoir des parents merveilleux qui m'ont dit OK. Enfin, ils savent que s'ils ne vont pas dans mon songe, j'irai quand même.
Ouais.
Du coup, ils m'ont dit « Ok, on comprend, on paye même la formation en partie. Mmh. Et, juste concentre-toi sur ta dernière année, assure-la et après tu vois ce que tu fais. »
Ouais, c'était un peu le deal aussi pour ma sœur, petit aparté, qui elle fait du cinéma. Mais ok, très bien. Donc tu décides de faire de l'immobilier. D'accord, donc l'immobilier, c'est super large. Tu peux faire plein de choses. Tu peux devenir, je sais pas moi, développeur immobilier. Tu peux devenir agent immobilier. Tu peux faire du marchandage. Comment est-ce que tu décides de sélectionner un type de métier dans l'immobilier à ce moment-là ?
Le premier, mon objectif premier, c'était de remplacer mon salaire, ou du moins pas en dépendre. Du coup, le locatif m'a été la voie la plus évidente. Bon, après, j'ai évolué dans mon parcours, mais c'est d'abord le locatif qui m'a sauté aux yeux. Et en plus, le côté récurrent, le côté cash flow. À l'époque, en plus, c'était en 2019-2020. Mm-hmm. Donc, on empruntait à 110% sur 25 ans. C'était davantage plus simple de faire une petite rente mensuelle.
C'est un peu plus compliqué là, c'est vrai. On a sauté un chapitre. Donc, tu avais un emploi. C'était quoi comme job, en fait ?
Alors, j'ai la chance aussi, sur ma licence de droit, la carte T, et ouais. La deuxième porte qu'elle m'a ouverte, c'est tout ce qui est le monde du notariat.
Ouais.
Alors, pareil, j'avais jamais fait de droit spécifique à cette matière, parce que c'est très large le droit. Et à cette époque, ils recherchaient énormément, parce qu'ils étaient dans le jus, mm-hmm. avec toutes les ventes qui s'accéléraient, les successions de manière générale et autres. Mm. Donc, j'ai postulé en tant que clerc de notaire. Je me suis dit, en petit malin, que j'allais être clerc spécialisé en droit de l'immobilier. Et donc, je verrais des ventes passer. Complètement faux. Déjà, quand les ventes elles passent devant le notaire, c'est que c'est fini. On a trouvé un acquéreur et un vendeur. Donc, jamais j'aurais pu me placer à la place de l'acquéreur. Mais ça m'a apporté le statut, parce que clerc de notaire, c'est bien vu. Ça m'a apporté le CDI, alors que j'étais COSMIC, mais au moins, c'était les prérequis bancaires qu'il fallait. Et je suis allé les chercher comme ça.
Ok, donc tu étais clerc de notaire et à côté, tu as fait la demande auprès de la CCI de ta région pour obtenir la carte T.
Ah oui, pardon, non. C'est moi qui me suis mal exprimé. Sur la carte T, elle est venue bien après. Elle m'a été utile 2 ans après mon lancement en immobilier. Okay. Au début, je me suis concentré que sur investissement locatif. Donc, il me fallait juste un CDI. Mm-hmm. Mais j'avais déjà la licence en droit pour être clerc de notaire et par la suite, la carte T. Okay. C'est arrivé après.
Très bien. Ok, donc tu étais à la sortie de tes études clerc de notaire. Je ne savais pas. Mais c'est vrai que c'était un move plutôt logique au final si tu voulais te lancer dans l'immobilier, même si au final tu t'es rendu compte que c'était plus de l'administratif et que tu ne touchais pas vraiment à l'immobilier en étant clerc de notaire. Quoi.
Totalement. Mmh. Totalement. Mais ça m'a beaucoup apporté parce qu'au final j'étais spécialisé en droit de la famille. Donc c'est succession, donation, pacs, mariage, divorce,
ouais.
Adoption. Et en fait tu vois les mécanismes de transmission. Mmh. Ça t'ouvre une autre. Enfin. Une ouverture un peu plus large, une fois que tu as un patrimoine acquis ou à acquérir, tu vois un peu comment tu peux optimiser ta fiscalité.
Bien sûr. Général. Donc cool. Tu as quand même eu quelque chose à en tirer.
Totalement.
Ok, donc à partir de ce moment-là, tu as décidé de faire du locatif. À partir de combien de visites est-ce qu'il y a un bien qui a commencé à susciter ton attention ?
Bonne question. Ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé les recherches avant d'avoir mon CDI et avant d'avoir ma licence. Donc je commençais déjà, mais j'avais ce côté frustrant de... Bah même si je vais visiter et je fais une offre, je ne vais pas être crédible parce que je n'ai pas le CDI. Donc j'ai commencé il y a longtemps, je pense que j'ai dû avoir mon CDI en juin, en avril, j'ai commencé à faire mes premières visites pour me faire l'œil, me faire l'œil du terrain, avoir les premiers réflexes, les premières questions et un peu me décomplexer de tout ça en mode « Ok, c'est une visite, c'est un bien immobilier, ok, j'y vais pour l'investissement locatif, mais ça reste un agent immobilier qui me fait visiter et c'est un humain. » quoi. Donc un peu relativiser tout ça et... démystifier, c'est ça le mot que je cherchais. J'ai dû faire, je pense, 25 visites pour trouver le bien qui me correspondait parce que, par manque d'expérience, on est énormément stressé. Je ne suis pas quelqu'un d'anxieux, mais on parle quand même de plusieurs milliers d'euros à aller emprunter, donc il ne faut pas se rater. Et surtout qu'on sait l'importance du premier bien pour enchaîner. Donc en fait, c'était surtout cette pression de « Ok, si je me rate une fois, je ne peux pas enchaîner. » Et donc, toute ma conception... Tout mon rétro-planning sur 3 ans, il capotait. Donc, je pense que je suis tombé sur une pépite et heureusement, au bout de 25 biens visités, et j'ai fait une offre. De base, je l'avais perdu, le bien. Tu veux que je rentre dans les détails ?
Vas-y.
En gros, je fais une soirée entrepreneur IMO la veille. J'y vais le lendemain et je suis reboosté. J'avais vu des investisseurs qui étaient un peu plus chevronnés que moi. Donc, ils m'avaient validé sur le papier le projet. Donc, j'y vais en confiance. Mon gros défaut encore aujourd'hui, parce que ça ne me passionne pas énormément, c'est les travaux. Moi, il y a 4 ans, je ne savais pas ce que c'était du placo, pour te dire un peu le niveau. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est bon, je maîtrise un petit peu. Et je vais sur place, je sais qu'il y a des travaux. Je le vois, je me dis, ok, tout est bon, je n'ai même pas besoin de négocier, ce qui est rare. Je pense qu'une offre-prix, pour passer devant tout le monde et bloquer, ça suffit. Mmh. Sauf que j'étais à 2 heures de la ville où j'investissais et je me suis dit, j'ai dit à l'agente immobilière, je reviens chez moi. Mmh. Parce que j'étais tenu par mon emploi, j'avais fait ça entre limite entre midi et 2 où j'avais pris ma matinée, je ne sais plus exactement, mais je savais que j'avais un impératif de revenir chez moi. Donc je fais, vous avez mon offre, mais dans 2 heures. Mmh. Quelle erreur, plus jamais je refais ça. Mmh. J'aurais dû faire une offre sur le capot parce que à la moitié de mon chemin, j'ai reçu un appel de cette agente immobilière qui m'a dit, 3 investisseurs derrière vous ont visité et ont fait une offre au prix et ont bloqué le bien. Donc je suis désolé, je savais que vous allez faire une offre, mais je ne peux pas les empêcher. Okay. Ils ont fait une offre. J'étais dégoûté, je m'en suis énormément voulu. Je crois que le volant, il a pris quelques taquets tellement j'étais énervé. Et je l'ai harcelé au bout de 2 jours. Je lui ai dit, ils sont toujours d'actualité, ils veulent toujours le bien. Oui, monsieur Georges, je suis désolé, on signe le compromis dans une semaine. Je leur relance en début de semaine qui suit. Et je suis, ils sont toujours là ? Oui, ils sont toujours là. Mmh. Et j'avais arrêté d'appeler. Et au final, ils devaient signer le vendredi la semaine qui suivait. Le samedi, je reçois un appel de cette agente qui me dit ils ne sont pas présentés au compromis. Je sais que vous êtes extrêmement motivés. Écoutez, leur offre, elle est caduque. Si vous en faites une, let's go. Et j'étais reparti en visite sur un autre bien, sur une autre ville. Ouais. J'ai limite annulé la visite qui suivait pour faire mon offre, prendre le temps de bien rédiger et de lui envoyer. J'ai réussi.
Bravo. Et comment tu étais, pourquoi est-ce que tu étais convaincu que ce bien-là, c'était le bon ? Qu'est-ce qui te faisait dire que c'était super intéressant d'un point de vue investissement ?
Tout collé. Déjà, c'était un immeuble. Ouais. Je voulais directement minimiser le risque en ayant plusieurs locataires. En gros, j'avais 3 loyers qui me payaient ma mensualité, le 4e qui me payait mes frais annexes, taxes foncières, etc. Enfin, tu connais. Ouais. Et le dernier qui me faisait mon cash flow. Donc au pire, si j'en avais un qui se louait pas, c'est pas grave, c'était mon manque à gagner mensuel, mais j'en avais pas besoin aujourd'hui. Et je me disais qu'ok, la proba c'est 3% d'un pays en France, faudrait vraiment que j'ai pas de bol pour en avoir 2 sur 5. Et au pire des cas, bon, j'ai un petit effort, c'est que temporaire, enfin je... Étant juriste, je sais que ok, ça peut être long, mais il y a des petits raccourcis de temps en temps, ça serait passé. Donc à force d'avoir vu, il sautait aux yeux parmi les 25 que j'avais visités et peut-être la centaine que j'avais étudiée sur le papier. C'est bon, il fallait que j'y aille et que j'enclenche.
Et il y avait des travaux à faire dans cet immeuble ?
Ouais, donc c'est un immeuble de 5 apparts. Il y en a un qui est loué depuis 9 ans, qui était loué en nu. Ouais. Ça limite son seul défaut parce que c'est du nu, donc micro-foncier, je me fais un peu matraquer par les impôts et je ne peux pas l'optimiser. Mmh. Et les 4 autres, c'était des studios à rénover. Donc on a fait du home staging, on a fait sur la façade il y avait une reprise de crépi, et après on avait de l'isolation périphérique et après tout ce qui était cuisine, sol, peinture. Étant donné que c'était des petits espaces, je me suis appuyé sur une décoratrice intérieure qui est très douée dans ça, où par exemple elle va te mettre une bibliothèque qui va faire la session entre la partie nuit et la partie jour, et en plus pour matérialiser ça, elle va jouer sur les couleurs au mur pour vraiment scinder 2 pièces alors que c'est la même pièce.
D'accord. Okay. Toi, tu as mis aussi la main à la pâte pour faire des travaux dans cet immeuble ou pas du tout ?
Non, mieux valait pas, je pense. J'aurais plus aggravé les choses que... Non, j'ai préféré déléguer. Ouais. Et puis la puissance de la délégation, c'est trop bien. Puis j'étais à 2 heures, donc ça faisait 4 heures aller-retour. J'ai changé une chose en 3 ans, c'est le poussoir des toilettes. Ça m'a pris 3h30, j'ai pas réussi. Voilà, pour contrer mon niveau. Okay. Donc j'ai dit, maintenant, je préfère payer limite 120 euros un plombier qui vient me changer un poussoir. C'est aberrant, c'est pas grave. Mais la charge d'esprit et l'énergie consacrée, il est mieux ailleurs.
Mais c'est un vrai message d'espoir ce que tu nous dis, parce que on pense toujours qu'il faut être manuel, qu'il faut savoir changer une chaudière pour se lancer dans l'immobilier. Or là, tu es en train de nous dire tout le contraire. Et au final, en fait, c'est surtout de l'envie, de l'ambition et de la détermination qu'il faut, plus que des connaissances en rénovation. Je trouve ça très courageux aussi le fait que tu aies investi à 2 heures de chez toi, parce que même à 20 minutes de chez soi, le marché immobilier peut être totalement différent, les prix sont totalement différents. C'est à 2 heures de chez toi, ça. Donc c'est à 2 heures de La Rochelle, j'imagine ?
C'était à Chalans. À cette époque, j'étais en Vendée. À Chalans, c'est entre les Sables-d'Olonne, Nantes et La Roche-sur-Yon, pour faire un grand triangle, Pipole au milieu, la ville du canard, elle est connue pour ça. Okay. Et j'étais condamné en fait à m'expatrier de ma région parce qu'elle est très chère, Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ils font monter les prix au mètre carré, et pour trouver de la rentabilité, même dans Chalans, c'était pas possible. Donc j'étais obligé de m'isoler un petit peu.
Et les Deux-Sèvres. Et t'es allé où du coup ?
À Thouars, dans les Deux-Sèvres.
Ok, bon, c'est pas une région, c'est pas trop mon secteur, qui est plus dans l'est de la France. Mais d'accord, donc ça a été ciblé parce que justement les prix de l'immobilier étaient beaucoup plus intéressants que dans ton secteur à toi.
Bah, du coup, ma compétence travaux n'est pas forcément là où je suis le meilleur. Par contre, les chiffres, ça me parle énormément. Je suis très mathématique. Et j'avais très vite compris qu'il fallait cibler une ville aux alentours maximum de 1500 euros du mètre carré pour trouver de la rentabilité. Donc, bah, du coup, je prends un rayon de 2 heures. Je regarde toutes les villes qui ont moins de 1500 euros du mètre carré. Je regarde après la population parce que pour moi, c'est un critère assez important. Et à partir de là, je cible les villes et j'affine mes recherches sur le bon coin, se loger, comme tu as dit tout à l'heure.
Et quel type de locataire est-ce que tu as trouvé pour cette ville et pour cet immeuble ?
Alors, j'ai un peu de tout. La locataire qui est là depuis 9 ans, c'est une personne qui est suivie par l'UDAF, donc qui est sous tutelle parce qu'elle a des problèmes mentaux, il me semble. D'ailleurs, anecdote très drôle, un jour, je me pointe sur mon immeuble, qui est le mien, je suis devenu propriétaire, et je la croise et elle me dit, elle me voit passer dans le couloir et elle pense que je suis locataire et elle dit « Ah, oh, c'est à moi tout l'immeuble ». Je fais « Ah oui ». Du coup, je rentre dans son jeu parce que j'avais pas encore d'autres locataires, donc c'était forcément elle. Et je me suis dit « Ok, faut pas braquer ». Puis moi, je suis des fois maladroit, donc je me suis dit « Ok, fais attention, comment tu abordes la chose ». Et je l'ai laissé se présenter. Elle me dit « Ouais, je l'ai acheté 1 million ». Et dans ma tête, je fais « Si, tu l'as acheté 1 million, t'es loin d'être rentable ». Et je l'ai laissé. Et après, bon, à la fin, j'ai quand même précisé que c'était moi le propriétaire. Mais c'était vraiment… Enfin, il y avait de la compassion et ça s'est bien passé. Mais alors, du coup, une personne qui a des problèmes mentaux, mais qui au final vit très rarement ici, c'est juste un point d'attache au cas où.
D'accord. Pas de problème d'impayé ?
Non. Non, parce que du coup, c'est la CAF, je crois, ou l'UDAF, ou des aides spécialisées qui me versent directement, qui versent à l'agence qui gère mes biens directement.
C'est toi directement qui as choisi tes locataires ?
Bah, hormis celle-ci, les autres non. Je suis passé directement par agence pour voir de la délégation. J'ai pas envie de faire 2 heures pour faire une visite. Puis je suis pas bon. Et puis je pense, moi je suis convaincu que c'est important de mettre des tampons sur des relations stratégiques, typiquement entre propriétaire et locataire. Bah, le débat de qui change l'ampoule. Les deux sont dans des sens opposés. Donc, c'est bien de mettre un tampon qui est neutre, un peu comme un notaire, un peu comme un agent immobilier des fois. En mode, ça, c'est la charge du locataire, ça, c'est la charge du propriétaire. Donc, ça m'était important. Mais après, ils m'ont bien sûr ciblé des dossiers. Je dois avoir 2 étudiantes en école d'infirmière parce que c'est la seule école sur Thouars.
C'est vraiment du pain béni quand il y a une école d'infirmière.
Oh, royal. Parce qu'ils arrivent à la première année, ça reste 3 ans, c'est royal.
C'est royal, ça.
J'ai une mamie qui est adorable. En fait, j'ai un tout petit logement. Je ne l'avais même pas trop compté dans mon calcul. Il doit faire, je crois, 15 mètres carrés. Pour Thouars, c'est très petit. On n'est pas comme à Paris où, c'est un peu la norme. Je me suis dit que ça ne se louerait pas. Au pire, ça serait du bonus. Et en fait, elle le loue au cas où, si ça se passe mal avec son conjoint, elle a son chez-elle et elle ne dépend pas de son compagnon. Donc tu vois, elle le loue mais elle y vit pas. Et la dernière, c'est une jeune active qui est là depuis 2 ans et demi, 3 ans. Je pense qu'elle va partir parce qu'elle va acheter, mais elle est là depuis un petit
moment. D'accord, donc il y a un petit peu d'activité quand même dans la ville de Thouars. C'est bien Thouars, hein.
Oui, c'est Thouars. C'est bien ça.
Ok, d'accord. Très bien, donc très clair pour ça. Toi qui es très mathématique, est-ce que peut-être tu peux nous parler de chiffres pour cette première immeuble? Combien tu l'as acheté? Combien est-ce que tu as investi en travaux? Et quelle renta est-ce que tu en tires ?
Ok. Alors, si ma mémoire est bonne, je l'ai acheté aux alentours de 70 000 net vendeurs, ou FAI, sensiblement, c'était ça. Les frais d'agence n'étaient pas excessifs. J'ai dû mettre le même montant en travaux. Ça m'a fait un coût de revient aux alentours de 140 000, 150 000. Je sais que c'est 150 000 max, parce qu'aujourd'hui, il est valorisé 175, donc une plus-value latente de 25. Et j'ai 1490 de loyer hors charge par mois. Donc on est à 11% de rentabilité. Ça me fait une mensualité aux alentours de 600. Tu mensualises les charges annuelles de taxes foncières et autres. En gros, j'ai un delta positif par mois de 500. Et j'avais 1 an et demi de différé, ce qui m'a permis de faire une trésorerie au cas où et pas taper dans dans l'épargne que j'avais pas d'ailleurs à cette époque, donc c'était très
bah, un coup de maître en plus, premier investissement, un immeuble directement. Ça aussi, je trouve ça très courageux de ta part, parce que généralement les gens qui veulent se lancer dans l'investissement locatif commencent par un studio. Là, tu commences fort directement avec un immeuble avec 5 appartements. Ça te vient d'où ce courage?
Pour moi, c'était vraiment, encore une fois, les mathématiques, c'était la sécurité. Me dire que je repose sur 5 locataires et pas un, le fait que Pour moi, ça allait plus vite, en fait. Je suis un peu un optimisateur feignant.
Pour
la même tâche, bah, passer une fois devant le notaire pour un appartement ou pour un immeuble, autant prendre l'immeuble. Pareil, au niveau de... Ça, je l'ai vu après, mais ça m'est quand même venu vite à l'esprit. Pour aller négocier potentiellement avec une agence de location, bah, si tu as un appart avec un locataire ou cinq apparts, c'est pas le même volume. Donc, pour cette raison, surtout pour l'aspect locataire, j'avais vraiment peur des impayés. Donc je me suis dit, on va diluer le risque.
Ouais, donc tu as fait appel à une agence pour la gestion locative. Ils prennent combien de pourcents
Alors, l'agence eux, j'ai fait toutes les agences de la ville pour savoir quelle était la meilleure offre.
La moins chère, du coup
Pas sensiblement la moins chère, mais le moins turnover. Parce que vu que c'est démeublé, tu as plus de turnover qu'en nu. Et je me suis dit, moi, je me mets à la place d'une agence, j'essaie de comprendre son business. Toujours, j'essaie de faire ça à la place de mes concurrents, de mes partenaires. Où est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Et vraiment, les agences gagnent de l'argent sur les turnovers, puisqu'ils vont facturer quasiment un mois de loyer à chaque changement de locataire. Et moi, je voulais une dynamique où, en gros, ils mettent un locataire qui est bon payeur, qui est respectueux et qui se sent bien. Donc, il faut forcément des bons logements. Chose que, éthiquement, j'étais obligé de... Enfin, c'est dans ma philosophie. Je vivrais là où mes locataires vivent. D'ailleurs, à cette époque, ils vivaient dans des meilleurs logements que moi où je vivais. Mais bon, la vie ne m'intéressait pas, donc je n'ai pas craqué. Mais j'avais une seule agence qui avait la dynamique de... Nous, notre but, c'est de rentrer des locataires. Donc, comme je te dis, dans ces trois critères-là. Et en gros, ça ne nous coûte rien en termes d'énergie et de temps au mois. On n'a pas besoin de les relancer, ils sont bons payeurs. Nous, on a juste en fait à faire des transferts de flux entre le locataire et le propriétaire. Et donc, ils prennent la moitié d'un loyer partagé, du coup. Donc, c'est quasiment un quart pour le propriétaire et pour le locataire quand il y a un changement. J'ai eu très peu de changements alors que j'ai dû meubler. En 3 ans, j'ai dû en avoir 3, grand max, 4, 10 jours de vacances locatives. Donc, ça montre sur un marché qui est pourtant pas très tendu que quand tu proposes des bonnes choses avec un bon prestataire, bon, ça suffit. Et le point avantageux, moi, que j'ai négocié, c'est que je leur ai dit, s'il y a plus de 2 changements dans une année, c'est que vous avez mal choisi votre locataire, vous avez fait une mauvaise présélection, donc vous arrêtez de facturer, t'as compris.
C'est le côté sportif, ça.
Le lapsus. Vous arrêtez de me facturer parce que du coup, vous allez prendre 3 mois de loyer dans une année, c'est pas possible, quoi.
Donc c'était le deal avec cette agence.
Et ils sont d'accord, c'est marqué sur le contrat à partir du moment où t'as plus de 2 turnovers dans une même année civile, enfin, de déclenchement par rapport au dernier locataire, c'est OK.
Ok.
Et c'est jamais arrivé.
Donc. Et en termes de pourcentage, ils prennent quoi? 7%?
Ça doit peut-être être entre 5 et 6. Non, peut-être pas 7.
Ah, ok. Ouais.
Et franchement, même s'ils prenaient 7 pour le temps que ça me prend et le temps qu'ils me font gagner, il y a zéro souci.
Ouais, bon. J'espère qu'ils écouteront pas le podcast.
Je vais recevoir un mail. Bon.
Ok, très bien. Et donc à ce moment-là, tu avais quel âge quand tu as acheté cet immeuble?
2020, donc j'avais 22 ans. J'avais 22 ans et 4 jours, 3 jours, parce que j'ai signé le 6 février, je vais y arriver, je connais même plus ma date de naissance. Le 6 février 2020 et je suis né le 3. Et je me suis dit, oh, c'est sympa comme cadeau, il faudrait que je fasse ça tous les ans.
Ok, donc c'était il y a quoi? Il y a
3 ans.
Il y a 3 ans. Et
bientôt 4, oula.
Bientôt 4 ans. Donc ça, c'était ton premier achat. Tu l'as toujours, cet immeuble?
Je l'ai toujours.
Ouais.
Il me reste... Enfin, j'ai aucun inconvénient. J'ai que des avantages à le garder, peu d'inconvénients. Je passe pas en LMP, loueur meublé professionnel. J'ai pas eu de problème. Je sais qu'il est plutôt sain, donc j'aurai pas de gros travaux à prévoir. Autant le garder.
C'est à partir de quel moment que tu as décidé de t'installer à La Rochelle, alors? C'est venu à quel moment? C'était après cet achat, parce qu'à ce moment-là, tu n'étais toujours pas à La Rochelle.
Ouais, bien vu. Au niveau de la temporalité, en gros, j'ai quitté mes études, donc j'étais à Poitiers. Ouais. Après, j'ai trouvé un CDI, j'étais avec une copine qui avait sa famille en Vendée. Moi, ma famille la plus proche, c'est mes parents et mon frère, et ils étaient en Charente-Maritime, donc département voisin. C'était OK pour moi de monter à Chaland. Je suis resté 22 mois en tant que clerc de notaire et 22 mois à Chaland. Pas un mois de plus. Et après, je suis redescendu temporairement chez mes parents. Je suis remonté à Laval parce que j'ai mon associé qui a aussi quitté son emploi pour qu'on puisse, bon, je préchouette un petit peu, accélérer sur la partie marchande bien. Et après, je suis revenu aujourd'hui à La Rochelle. Mais en gros, j'ai un peu été volatile dans mes déplacements. Poitiers, Chaland, Rochefort, Laval et Rochefort. Rochefort qui est à côté de La Rochelle.
Ok. Tu parles d'associé, mais cet associé-là n'a pas investi avec toi sur le premier immeuble?
Non.
tu l'as rencontré par la suite.
Je l'ai rencontré à cette fameuse soirée IMO Entrepreneur qui était la veille de la visite. Je l'ai rencontré et j'ai eu une très forte intuition, donc je suis allé le voir et on s'est suivi. Lui a des compétences énormes en travaux, du coup il m'a énormément rassuré. Et moi j'ai des bonnes compétences juridiques et il a acheté un nouveau bien, un peu complexe parce que mise en copro d'un marchand. Donc on s'est auto-accompagné là-dessus, c'est comme ça qu'on a fait nos...
T'as su le convaincre de tes compétences juridiques et lui t'as convaincu de ses compétences en travaux.
Exactement.
Bah, c'est vraiment l'associé parfait. Hein.
Ah oui, on matchait bien au niveau compétences.
C'était... Niveau compétences, ça match bien. Et après, niveau feeling, il faut que ça matche aussi.
Totalement. Mm. Bah, au début, on a les mêmes passions. Lui comme moi, on est accro à l'adrénaline. Il est motard, je suis motard. On a passé notre pack, formation parachute, ensemble. Donc ça, ça montre qu'on est accro à ces petits shots de d'adrénaline.
Tu es fou, Emric.
Et oui, après on s'est dit ok, viens on arrête d'avancer chacun de notre côté, on fusionne les forces et après on a enclenché sur un premier achat-revente.
Aujourd'hui tu travailles qu'avec lui exclusivement ?
Et bien du coup ça a changé, depuis deux semaines on a pris la décision de se dépacter. Avant on avait une règle qui était que ça soit un projet IMO ou hors IMO, on l'étudie à deux, on s'écoute, on voit est-ce que ça nous chauffe ou pas. Si on a un qui est vraiment chaud et l'autre non, on voit s'il y va tout seul. Et vraiment tous les projets passés, ce qu'on appelait dans notre groupe, dans notre binôme, on regardait si ça passait, si on le faisait. Et on a décidé pour des raisons multiples, notamment business, d'arrêter de se pacter parce qu'en fait ça pouvait surtout entraver nos développements personnels et parce qu'on a des manières de faire business différemment. Et vu qu'on est devenu amis et associés en même temps, on ne veut pas gâcher notre amitié, donc on a préféré, voilà, tous les autres projets à futur à partir d'aujourd'hui peuvent être regardés par l'un ou par l'autre, sans l'autre, et c'est ok. Mais on peut aussi faire des projets si on y voit vraiment un intérêt. Mais c'est plus lié au pacte, c'est vraiment l'intérêt qui primera sur l'association d'un futur projet.
Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais aux auditeurs de s'associer à quelqu'un qui s'y connaît en travaux si nous-mêmes on s'y connaît très peu en travaux ?
Oui, je pense vraiment que s'associer avec quelqu'un qui n'a pas... Enfin, là où tu es moins fort, ça peut aider. Après, il ne faut pas regarder que les compétences, il faut vraiment regarder aussi est-ce que tu symbioses bien avec la personne au niveau vision et état d'esprit. Parce que même si ton quotidien, c'est quand même assez carré où tu vas étudier des projets et autres, il y a quand même une énergie qui doit se dégager de ce binôme ou d'un trinôme, enfin qu'importe le nombre qu'on ait. Et il ne faut pas s'associer avec n'importe qui. Mais je crois, et la preuve avec Alexandre, je n'ai pas été écœuré de l'association, bien au contraire. C'est surpuissant. On ne serait jamais arrivé tous les deux à ce niveau-là sans association, c'est sûr.
Après, il faut encore pouvoir proposer des compétences complémentaires à celles de la personne avec qui on va s'associer.
Totalement.
Toi, en l'occurrence, ta force, c'était vraiment le juridique. C'est ce que tu as étudié au final. Certes, tu as fait un burn-out pendant tes études, mais mine de rien, ça t'aura quand même servi dans ton parcours professionnel.
Clairement, j'ai appris tous les codes. C'est un langage, le juridique. Et ça m'a beaucoup aidé. Je ne suis pas bon pour concevoir des contrats, mais par contre, pour les lire, j'arrive à comprendre un « et » ou un « ou » qui a une énorme importance, ou des manières de faire, etc. Même dans les process, s'il y a des procédures ou autres, des clauses qu'on peut mettre dans des compromis, c'est une vraie plus-value.
Ok. Et aujourd'hui, en termes d'immobilier, tu en es où ? Il y a 3 ans, tu avais fait ton premier achat avec ces 5 appartements. Aujourd'hui, à 25 ans, il en est où, Emric ?
Il en est qu'il a arrêté la partie non propre. J'ai fait que cet immeuble en non propre. Ouais. Après, j'ai fait un achat-revente en indivision, du coup, avec Alexandre. Donc, c'était toujours en non propre. C'était Alexandre et Emric, personne physique, qui a acheté. Le but, c'était de générer très vite de la trésorerie parce que c'était ma carence. Et après, on est passé en professionnel parce que quand on fait un achat-revente et qu'on goûte aux plus-values, au fait de se dire « Ok, on mène un projet, on règle ses problèmes, on mène ce projet à bien. » Et après, on n'a plus, entre guillemets, les inconvénients ou les mauvais côtés de gestion ou autres qui peuvent arriver, qui ne sont pas très stimulants. C'est dingue. Et puis, mon premier immeuble est super, je fais plus 500 tous les mois, mais l'achat-revente, j'ai fait x10 par rapport à mon épargne. Là, tu dis ok, c'est exponentiel comme système. Donc pour répondre plus précisément à ta question, je suis passé côté professionnel, donc marchand, et aujourd'hui j'ai 1, 2, 3 EP en professionnel, et j'en ai une 4e en nom propre via mes parents, parce que j'avais besoin d'un an de salaire. Mmh. Donc on a trouvé ce système de passer par les parents pour qui était finançable, pas moi.
Ouais. En tant que marchand de biens, en plus, tu as des frais de notaire réduits, il me semble. Hein.
3%.
3% de frais de notaire à chaque transaction.
Ouais, à partir du moment où tu t'engages à revendre dans les 5 ans.
Dans les 5 ans, ouais.
T'as une petite ristourne des impôts.
Par contre, tu restes fidèle au même notaire, j'imagine. T'as toujours le même.
Alors oui, j'ai toujours le même qui s'occupe de toutes mes opérations. Et même un conseil, le notaire doit être très bon au niveau juridique. Mmh. Mais par contre, c'est le clerc ou la clerc qui doit être extrêmement réactif. Ah, oui. C'est la clé. Vraiment, plus que le notaire.
Je confirme. Un deal peut sauter à cause d'une clerc de notaire qui n'est pas assez réactive.
Oui, totalement. Et d'ailleurs, les deals qui ont pété, c'est parce qu'en face, ils n'avaient pas un clerc ou un notaire réactif. Ça ne dépendait même pas de nous, mais forcément, deux notaires dans le dossier, bah, tu dépends des deux parties. Mmh. Et ça me rendait fou. Parce que moi, elle me répond, enfin, je l'appelle là en live, je suis sûr de l'avoir au téléphone. et alors que dans le sens inverse, c'est pas vrai, quoi. Et ça. Oh, ça a le don de m'agacer.
tu m'étonnes. Ok, donc tu as fait combien d'opérations de marchand de biens jusqu'à présent?
Alors, terminé, zéro. Mais par contre, j'en ai trois en cours et elles vont sortir pour février, comme quoi les anniversaires, ça porte chance au niveau des affaires. Ouais. J'en ai trois qui vont sortir. Il y en a deux qui sont en pré-commercialisation accélérée.
Ouais.
Et une dernière où j'ai un portage de 10 jours, où j'achète et je revends limite le lendemain. Donc ça va se faire très rapidement, ouais.
Ok, donc il n'y a pas une règle, tu gardes pas le bien pendant un certain nombre de mois jusqu'à la revente. Ça dépend à chaque fois au cas par cas, en fait.
Totalement. Totalement, je dirais qu'il n'y a jamais une règle immuable, si ce n'est la règle des 20% de plus-value à respecter, qui est vraiment protectrice du marchand, donc il faut vraiment la respecter. Hormis ça, ton projet, tu le modélises un peu comme tu veux. Vu qu'on veut accélérer fort, on veut récupérer très vite nos plus-values. Mais il y a une dynamique, en effet, je vois à quoi tu fais allusion. Tu peux garder, mettre en location, du coup bénéficier de revenus LCD, notamment location courte durée, et après revendre. Aujourd'hui, c'est pas notre dynamique parce qu'on veut récupérer du cash pour le réinvestir et alimenter la machine.
T'as parlé de la règle des 20% dans le marchandage de biens. Est-ce qu'il y a d'autres règles? Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner aux auditeurs? Parce que voilà, je pense que la plupart s'intéressent énormément à l'immobilier, mais n'ont pas forcément encore sauté le pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut savoir quand on fait du marchandage de biens?
La règle vraiment à respecter, c'est la règle des 20%, quel que soit le domaine, parce que le marchand, c'est très large. Tu peux faire du terrain, tu peux faire de l'ancien, avec ou sans rénovation, tu peux faire de la promotion. Je dirais que la règle de base et qui s'applique à tout le monde, c'est 20% de marge. Donc c'est facile, hein. Si tu as un projet qui coûte 500 000 en coût de revient, bah, tu dois au minimum générer 20%, donc 100 000 euros. Donc, c'est-à-dire que ta revente pour toi, elle est de 600, bien sûr, avant IS, impôt sur les sociétés. Désolé, je me rends compte en faisant le podcast que j'ai beaucoup de raccourcis IS, TVA, enfin TVA normal, mais j'ai beaucoup de raccourcis.
Non, je pense que l'IS, ça allait encore.
Ok. donc, ça, c'est forcément primordial à respecter. Et après, je dirais plutôt que c'est des raccourcis ou des cheat codes, comme je les appelle, pour aller plus vite et repérer des bonnes affaires. Tout à l'heure, je faisais allusion sur le marché du locatif, de se concentrer sur des marchés où le prix au mètre carré est inférieur à moins 1500. Je pense que là, c'est l'inverse. Il faut être au minimum à 2005 ou 3000 euros, tout simplement pour pouvoir placer sa marge et que ça soit plus facile aussi de négocier. Quand tu as un prix au marché, pour que ça soit concret, un marché qui est à 1200 euros, bah en fait, pour que toi, tu t'en sortes avec tous les frais, les problèmes que tu vas résoudre, administratifs, techniques, travaux, bah, il faudrait limite des fois que tu l'achètes à zéro. Et encore, des fois, ça ne suffit pas pour se dégager une marge. Alors que quand tu es à 3000, bah forcément, tu as un peu plus de soupape et c'est plus simple à passer. Et puis, généralement, c'est des marchés plus tendus aussi, donc forcément plus favorables à la vente.
Alors, prenons un exemple. Par exemple, on est sur un marché, on est à 2500 euros le mètre carré dans une ville. À combien est-ce qu'il faut l'acheter au mètre carré à peu près ce bien pour que ce soit rentable?
Alors, par le mètre carré, je sais pas. À un moment, je m'étais mis un point technique de il faut au moins 500 euros par mètre carré de marge. Mais en fait, en poussant les calculs sur la volumétrie, bah, tu respectes pas forcément la règle des 20%. Et la règle des 20% doit tout le temps primer.
Donc, c'est pas tant une histoire de mètre carré au final.
Ça favorise. Les marchés au-dessus de 2500 euros du mètre carré favorisent à du marchand. C'est sûr. Mais c'est pas. On fait une opération actuellement où on a 2200 du mètre carré. Donc, tu vois, il y a des contre-exemples. Mais ça dépend le profil. Par contre, on a l'emplacement numéro 1 de la ville. C'est-à-dire que limite, la mairie, elle est en face. Le marché, il est en face. On est vraiment sur l'emplacement numéro 1, on n'est pas en périphérie. Ça, c'est essentiel. Alors que dans des marchés ou d'autres marchés, on n'est pas forcément à l'emplacement numéro 1, mais le prix au mètre carré est déjà tellement élevé, par exemple sur l'île de Ré, qui est une île très cotée par chez moi. C'est un peu le petit Paris où tous les bobos et autres vont là-bas, même les étrangers. Il y a même Vanessa Paradis qui y va, enfin, ou qui est allée. Bah là, c'est un peu plus souple.
Ok, ok. On va un petit peu parler des obstacles à surmonter. Je pense que dans ton parcours, qui maintenant ça fait 3 ans que tu es dans le métier, tu as dû affronter quelques obstacles, quelques difficultés. Est-ce que tu pourrais en mentionner une ou deux anecdotes qui t'ont marqué et pendant lesquelles tu as pu en tirer une leçon ?
Alors, bonne question. Il y en a tellement et j'essaie de tellement pas me concentrer sur le négatif qu'elles ne viennent pas à l'esprit. Il y en a une, maintenant j'en rigole parce qu'elle est passée, mais au moment, elle m'a remis beaucoup en question. C'est j'ai eu un procès sur le plan civil.
Déjà ?
Ouais, déjà. j'ai eu un procès, en fait, c'est sur l'opération du coup de Quiberon, l'achat-revente que j'ai fait avec mon associé en nom propre. C'est un appartement qui n'était pas habité depuis 20 ans. Et la voisine du dessous, donc on est au deuxième étage d'une résidence, c'est le premier étage auquel on a le vue mère. Donc c'est-à-dire qu'en dessous, ils ne l'ont pas. Et une erreur de marché, je bondis sur l'opération, on est à 5 heures aller-retour, mon associé et moi, pour aller voir le projet. Mais c'est tellement un bijou qu'on ne réfléchit même pas. Je me rappelle d'ailleurs, je suis dans ma Clio 3, Clio 2, Clio 3 pardon.
Important le détail.
Vraiment, comme dirait Yann Darwin, le véhicule poubelle qui t'amène juste d'un point A à un point B, tu vois. Zéro confort. Mais bref, c'est ma première voiture, donc il y a un petit effet émotionnel. Je suis en train de conduire et mon futur associé est en train de travailler. Tellement on le fait sur des plages horaires en pleine journée alors qu'on est censé bosser. Et pourquoi le procès ? Parce que du coup, la voisine juste en dessous, je pense, avait vu le bien. On s'est placé avant elle et on a fait des travaux. Forcément, pendant 20 ans, t'as un bien qui est inhabité. Quand on fait des travaux, même si on a respecté les jours et les horaires légaux, on a fait ça par des artisans, donc c'était très carré. Et bien, elle a estimé qu'on faisait trop de nuisances. Donc au début, elle a déposé plainte sur le plan pénal, déboutée par le parquet. Donc on est allé t'es quand même convoqué en gendarmerie devant un gendarme et il y a quand même un caractère très authentique, formel, où tu te dis, mais tu te reposes la question, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal pour en arriver là ? Non, en fait, encore une fois, tu démystifies un peu la chose. Non, en fait, voilà, il y a une plainte, ils sont obligés de t'enregistrer, donc tu y vas. Bon, débouté. Après, elle a essayé sur le plan assurantiel. Donc, elle a fait jouer son assurance habitation en disant que dans sa salle de bain, il y avait des fissures. Donc deux experts qui sont convoqués, le sien, le nôtre, et même son expert, il lui a dit « Bon, je suis désolé, mais je vais rien pouvoir faire, votre fissure, elle est noire de chez noire. »
Même son avocat ne pouvait pas prendre sa défense.
Exactement. Enfin, ça fait au moins 6 mois qu'elle y est. Or, nous, on a commencé les travaux il y a 6 mois, donc ce n'est pas nous qui avons fragilisé. Et le dernier recours qui lui restait, c'était le plan civil. Et donc là, elle a déposé, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, une action pour nuisance... Enfin, c'est un peu comme les nuisances sonores, mais je n'ai plus le terme, parce que les nuisances sonores, il me semble que c'est côté pénal, mais c'est sensiblement la même chose. Et on n'a pas voulu faire de l'amiable. Enfin, elle a fait des attestations à long comme le bras, son petit-fils, son fils, enfin n'importe qui en a fait. Et nous, on n'avait pas le temps. Enfin, on s'est dit, bah non, déjà, on le fait par des artisans, on ne va pas se retourner contre eux, parce qu'on était encore en plein chantier. Puis même, ils n'ont rien fait. Genre, on va les représenter, c'est bon. Les artisans, concentrez-vous sur les travaux. Nous, on se concentre sur ce petit contentieux. Et c'est comme aller au procès, et on a perdu. Donc ça nous a coûté...
Non,
si.
C'est pas vrai. Je m'attendais à une finalité positive.
D'où l'importance des 20%, tu vas vite le comprendre. On a perdu, je ne sais pas par quel motif.
Incroyable.
Ça a été reporté une fois par notre avocat, une deuxième fois par l'avocat d'en face. C'est un peu la coutume de se renvoyer en mode de faire des renvois de date pour avoir je sais pas si on appelle ça un procès, mais enfin bref, que le juge y statue. Et le problème, c'est que du coup, plus on a reporté, plus nous, on arrivait vers la fin de nos travaux et on a commencé à pré-commercialiser. Donc, quand tu achètes un bien qui a 205 000 net vendeur, qui nous a coûté 330 en total et que tu le revends 630, ils ont avancé l'argument de la spéculation et du côté marchand. Et là, je pense que c'est peut-être ça qu'a joué. Je sais pas. Honnêtement, maintenant, je m'en fiche. Mais le juge s'est peut-être dit, ok, elle n'a pas les moyens, eux ils ont les moyens, ils sont en train de faire une plus-value de dingue, bon bah ça va rien leur coûter si on lui laisse 4000 à cette bonne femme. On n'a pas fait appel, on voulait passer à autre chose, et c'est bon, au bout d'un moment. En fait, il y avait tellement de temps et d'énergie qui était consacré pour un truc qui ne nous générait pas de l'argent, ça m'énerve. Donc, allez, prends, on a payé notre avocat, au final, ça a été une excellente relation. C'est un avocat d'ailleurs qui a défendu une des victimes de Charlie Hebdo, donc c'est une énorme rencontre humaine. Et puis, ça, enfin moi, un petit clin d'œil, je voulais être pénaliste, un peu faire ce genre de procès.
Bien sûr.
Donc, c'est une expérience riche. Mais
comment on rencontre un avocat comme ça?
Le réseau, la puissance du réseau. C'était le peintre ou plaquiste de Alexandre qui connaissait cette personne.
C'était par pur hasard, en fait.
Par pur hasard. Et en fait, il avait une dimension énorme en pénal, et de plus en plus, il voulait aller dans le civil, qui sont des matières différentes. Et vas-y, on a dit go.
Ouais. Bah, la charge mentale que ça te coûte, c'est énorme.
Et, énorme.
Ça te freine dans tes projets. Et si en plus tu fais appel, etc., ça fait juste retarder le fardeau que ça te cause, en fait.
Totalement. Je prends souvent cet exemple et ça montre mon focus et comment je suis aligné au niveau business. Il y a des gens qui, et loin de moi les critiquer, mais je ne comprends pas. Par exemple, les tickets réduction au supermarché, il y en a beaucoup qui les collectionnent et ils les utilisent. Le temps que ça prend à les conserver, à les réutiliser, à cibler le produit, il est énorme pour quelques réductions. Ça va peut-être être quelques centimes sur un produit, quelques euros ou dizaines d'euros sur un panier, et à l'année, ça allait peut-être 100 euros. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas le même temps et la même énergie pour gagner l'argent? Parce que réduire, bah, au bout d'un moment, quand ton panier il est à 500 euros, tu peux gagner et économiser 500 euros maximum. Alors que économiser et gagner de l'argent, bah, c'est limité. Tu peux faire 500, 1000, 10 000, 100 000. Enfin, tu vois, c'est exponentiel et surtout infini.
Ouais, bah, c'est comme admettons, ton train il a eu 45 minutes de retard, donc tu peux te faire indemniser. Ton ticket de train t'a coûté 29 euros. Le temps de faire toutes les démarches, d'aller sur au bon endroit, sur le bon onglet du site de la SNCF, tu perds un temps fou pour te faire rembourser du coup 29 euros, mais tu auras perdu 3 heures de temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, tu estimes que 3 heures de ton temps équivaut à 29 euros.
Oui.
Alors que ces 3 heures de temps, tu aurais pu les investir dans autre chose qui t'aurait apporté beaucoup plus derrière.
Je suis extrêmement d'accord.
Donc
mais tu sais qu'au tout début, petite anecdote, je fonctionnais énormément comme ça. La valeur temps est la valeur la plus importante pour moi, en dehors de l'argent et de tout, c'est le temps. Parce qu'on est tous soumis à cette règle de on a un temps sur Terre, qu'on ne sait pas combien de temps, mais ça reste 24 heures une journée, ça reste 365 jours une année. Et j'avais fait le ratio, à l'époque où j'étais clerc de notaire, au SMIC, donc sensiblement 10 euros net, j'arrondis, je me suis dit, un coca. Quand tu te balades, un coca, ça coûte peut-être 3 euros.
À Paris, c'est 7.
Ça pique. Je suis bien dans ma province. ça pique. 3 euros un coca, du coup, ça fait sensiblement 20 minutes de mon temps. Est-ce que ce coca vaut 20 minutes? Non. Du coup, par exemple, je n'ai aucun plaisir à aller boire un coup. Et quand tu as fait ce ratio temps-argent, faut faire gaffe parce que du coup, ça peut vraiment trop... encadrer ta vie, tu profites plus, il faut profiter de la vie, mais tu rationalises et tu te dis est-ce que vraiment cette dépense vaut le coup? Plaisir immédiat, plaisir différé, enfin toutes ces valeurs.
Ouais, non, mais c'est toujours le même souci, ça dépend comment est-ce que tu gagnes ton argent. Si tu as sué pendant 8 heures dans une journée pour gagner pas énormément, tu réfléchis à deux fois avant de dépenser ton argent. Et en l'occurrence, les personnes. Qui sont dans l'abondance financière, généralement, elles ont tendance à pas forcément se soucier de ça.
Oui. Ouais, qui n'ont pas le goût de la sueur et de l'argent.
Et c'est important aussi de connaître la valeur de l'argent.
Totalement.
Je pense que c'est une chance, au final, de ne pas être... Alors, je ne sais pas pour toi, mais de ne pas être né dans une famille fortunée. Au final, je pense que ça a aussi des énormes avantages.
Oui. Ma famille... j'ai des flashs et de ce que m'en disent mes parents... Ils comptaient un peu les patates à la fin du mois quand j'étais gamin, mais c'était des énormes bosseurs. Enfin, mes parents sont commerçants et du lundi au vendredi, et y compris le dimanche aussi, c'est 7h-20h parce qu'ils tiennent un bureau de tabac. Bon, c'est un métier passion, mais il faut quand même les tenir les 13h.
Bien sûr.
Et juste, c'est une valeur qui m'a été inculquée, et profond respect, et fierté envers mes parents.
T'as des frères et sœurs aussi qui sont dans l'entrepreneuriat?
Non, alors je suis le précurseur. Déjà, je suis le grand de ma fratrie où on est deux. il a 7 ans de moins, mon frère. Ouais. Et même de la cousinade, je suis l'aîné. Donc je suis un peu l'aîné. Donc
un bel exemple. Alors.
Ou pas. Oui, je pense que ça devrait le faire. Mais non, je suis le précurseur au niveau... Alors, mes parents, comme je l'ai dit, sont commerçants, donc c'est une forme d'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas le même type d'entrepreneuriat que je fais. Donc, famille de commerçants, donc entrepreneur type commerçant, mais entrepreneur type, je ne sais même pas comment le qualifier, mais comme un marchand ou quelqu'un qui veut faire d'autres choses aussi, non. Donc, mon frère, oui, est très intelligent, très mature aussi pour son âge. Et je pense qu'il trompe, enfin, il a les mêmes valeurs, il a les mêmes sensibilités, il a les mêmes besoins que moi, la liberté est quelque chose qui lui est très important. Donc je suis quasiment sûr qu'il tombera dans les bas-fonds de l'entrepreneuriat.
Les Georgés veulent la liberté.
Exactement.
Et du coup, on n'en a pas du tout parlé, mais il me semble que tu as une agence immobilière à côté d'une activité de marchand de biens. Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu?
Ouais. En fait, c'est parti d'un constat qui est très très simple. Avec Alex, on a beaucoup, grâce au travail, beaucoup de réseaux qui ont été constitués et qui nous apportent beaucoup d'affaires. Et pour schématiser un petit peu, sur 100 projets, il y en a peut-être 3, 4, 5 qu'on va prendre nous personnellement en tant que marchand. Il y en a 20 ou 30 qui sont vraiment complètement à côté de la plaque comme projet. Et il va en rester une soixantaine du coup qui ont un potentiel. C'est juste que nous, on a augmenté nos exigences parce qu'on se le permettre et parce qu'on peut pas être partout non plus. Et on s'est dit c'est quand même dommage parce qu'on connaît plein de gens qui recherchent des investissements soit locatifs soit marchands et des pros, chasseurs, agents, etc. qui ont ce genre de projet, mais les deux juste n'arrivent pas à se rencontrer, enfin les deux morceaux du puzzle ne matchent pas. Et donc on a créé une agence qui s'appelle L'Entremise et qui porte très bien son nom puisqu'elle met en relation ces fameux chercheurs de projets avec ces fameux apporteurs de projets. Donc on les met en relation, on est trois dans ce projet, il y a Alexandre, Sophie qui gère le bien, et, enfin l'agence pardon, et la gérante c'est Sophie. Donc ça fait un an qu'on l'a constitué et bon moi j'ai décidé pour des raisons hautes de ne plus être associé d'ici les prochains temps, mais d'être que agent commercial, enfin rattaché à la carte T. Mais je crois énormément au projet et on le voit sur les ceux qui ont matché. Enfin, du coup, on remplit vraiment une demande qui est réelle.
Tu dédies combien de temps à l'agence ?
Moi, très peu. Très peu. J'ai un souci d'optimisation et de stimulation qui drive mon quotidien. Et sur le côté, on va dire, administratif d'une agence, c'est très redondant et ça ne me stimule pas. Et donc, ça m'oppresse. C'est pour ça que Sophie a un rôle très pionnier dans ce trio. Mais je dirais, en fait, je le fais naturellement. C'est mon activité de marchand qui m'amène à avoir des apporteurs d'affaires. Et après, je les redirige juste. Je dis, tiens, Sophie, nous, on ne va pas sur ça. Mais là, on l'a décortiqué. Il peut y avoir cette dynamique en investissement locatif, cette dynamique en achat-revente. On voit si ça colle avec des clients de l'agence. Donc, au final, très peu de temps.
Ok, donc on est quoi, 5% de ta semaine
pas. Ouais. Ouais, je pense aller 1h30 grand max.
Ok, donc plus ou moins de 5%. Ouais. Elle est découpée comment d'ailleurs ta semaine ? Donc, l'activité de marchand de biens, c'est ton activité majeure, c'est la plus importante. Tu y dédies combien de temps ? Donc, il y a ton activité avec l'agence immobilière. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'il faut qu'on sache sur toi ?
Alors,
et le sport, bien sûr.
Ouais, exactement. J'allais y venir. J'ai une certaine forme de routine qui est modulable. C'est-à-dire que j'aime pas être enfermé dans des routines, genre à 8 heures, il faut absolument que tu manges 300 grammes de flocons d'avoine.
Okay.
Ça, c'est impossible pour moi. Mais j'ai des éléments cadres de mes semaines qui me sont très importants, notamment quand je suis à Rochefort. Quand je suis en déplacement, y a un aspect que je maîtrise pas. Donc, je me modélise. Mais au quotidien, je me lève aux alentours de 7h30. C'est douche directe. Moi, il faut que ça me réveille, donc c'est douche directe. Je prends mon petit déj et généralement, je mets un petit podcast où.
T'écoutes quoi comme podcast ?
Oh, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai beaucoup saturé en IMO, donc je suis très select sur la partie IMO. Je suis très entrepreneuriat et autres sur de la culture. En ce moment, je suis beaucoup sur les religions, comprendre.
Okay.
Donc je lis un livre et en même temps, enfin, il faut que je trouve un podcast, je ne l'ai pas encore trouvé, mais c'est très, très certain que je vais y tomber. J'ai des niches comme ça. Des fois, à un moment, ça a été les montres. Enfin, j'ai des niches.
La curiosité incarnée.
Exactement, j'ai besoin de ça, il faut qu'on m'alimente.
Je sais pas si t'es au courant, mais tu peux regarder gratuitement tous les films Arte sur leur plateforme.
Les docus ?
Ouais, les docus, okay. Les films, c'est une genre de plateforme Netflix gratuite d'Arte et ils parlent de tout et de rien. Enfin, c'est super large, tu peux apprendre plein de choses. Si toi qui t'es curieux, je te conseille d'aller jeter un œil parce que tu pourras assouvir sa curiosité avec ça.
Ah, je suis très preneur parce que le format podcast et vidéo sont les seuls formats que j'arrive à digérer en ce moment. J'ai trop mangé de livres et j'arrive plus au format. Enfin, de la lecture, du coup, ça m'endort où tu lis, tu sais, 10 fois le même paragraphe et tu sais toujours pas ce qui est écrit dedans. Ça m'énerve. Donc, pour le moment, j'ai laissé de côté la lecture. Et pour répondre à ta question sur les podcasts, j'aime beaucoup Investisseur 4.0 sur l'IMO. Okay. Génération Do It Yourself.
Avec Mathieu, Stéphanie.
Ouais, j'adore, je suis très fan.
Ils sont très longs en plus, hein.
Ah ouais. Moi j'adore en x2, au final ça raccourcit.
Ah oui, x2 j'ai du mal.
Ah ouais ?
Ça va trop vite.
L'oreille va s'habituer au fur et à mesure. The Ring de Yann Darwin, forcément, okay. J'aime beaucoup. Ouais. Comment ça s'appelle ? Et le dernier, je dirais que c'est. Alors que c'est pas des personnes à première vue que dans lesquelles je me retrouvais, mais je trouve leur conversation très intéressante. C'est celui de Yomi Denzel et Oussama Ammar.
Je les consomme.
Je suis pareil. Et pourtant, c'est pas du tout mon secteur. Même quand je fais du dropshipping, j'ai pas adhéré avec Yomi.
Après, je dirais pas que ça touche un secteur en particulier. Il parle de tout.
Exactement.
Enfin, c'est
en fait, c'est une question qu'on aurait pu avoir toi et moi. Et ça te fait cogiter. Tu as des positionnements des fois sur des avis. Et tu dis, ah ouais, c'est vrai, vu comme ça, c'est malin. Et j'aime beaucoup, je recherche beaucoup ça. Qu'on m'ouvre l'esprit.
Ça nous challenge intellectuellement.
Exactement. Ouais. Et pas que business, donc c'est cool. Je sais plus, on a dérivé.
Le but, c'était de savoir à quoi ressemble ta semaine, en fait. Donc ça commence par un podcast. Généralement, le matin avec une douche.
Après, je me mets devant mon PC. J'aime pas trop avoir du téléphone le matin. Donc, je vais faire du mailing. S'il y a un aspect création, je le fais. Bon, j'en ai très peu hein, quand même. Je vais étudier des projets. Enfin, je vais être un truc où je vais mettre de la musique, tranquille, focus. Et jusqu'à 11h, de 11h à 13h, CrossFit. Là, j'ai besoin de ma petite dose. Et en plus, elle est très stratégique. C'est-à-dire que j'ai fait une grosse matinée. Je suis plus maintenant sur l'aspect faire... 3 grosses heures dans ma journée, mais extrêmement productif et et très focus, plutôt que faire 10 heures dans ma journée. Donc, CrossFit, ça me sèche l'esprit et l'énergie. Donc, je vais manger un peu en mode zombie. Je suis très oxy au niveau du cerveau. Une douche et une micro-sieste de 22 minutes.
Ah oui, 22 minutes. 22 pas minutes. Une de plus.
Pas une de plus, pas une de moins. 22, on me dit pourquoi pas 20 ou 25 ? Parce que 25, je pense que je tombe dans le sommeil trop profond. Donc après, je suis un peu la tête nébuleuse. Ça ne me va pas. Et 20 minutes, parce que je me dis, imaginons que je tourne un peu ou que j'oublie un truc. J'ai une porte de ma salle de bain où j'entends la VMC. Si je l'oublie, je suis obligé de me relever. Du coup, je ne vais pas exactement avoir 20 minutes. Je vais avoir 18 minutes et ça m'énerve. Donc je veux 22 minutes. Et au pire, ça fait 2 minutes de bonus si j'ai tout bien fait. J'en suis là, hein. Dans l'optimisation du temps, j'en suis jusqu'à là.
J'entends.
Et après, l'après-midi, en ce moment, il y a beaucoup de travail. Donc, je rebosse et ça me va très bien.
Tu bosses sur quel sujet
hein, sur... Là, lancement, enfin, recherche de projets à fond. Les projets qu'on a en cours, c'est un peu du suivi, mais c'est parce qu'il prend énormément de temps. Parce qu'on s'est bien répartis avec les associés. Mais là, c'est recherche de projets, relance de réseau, études. Même si en 20-30 minutes, grand max, je sais si un projet a un potentiel ou pas. Je visite très peu d'ailleurs. Je fais très peu de visites. Je fais des visites quasiment qu'après l'offre.
Comment tu fais pour t'assurer que c'est...
je pense qu'avec le temps, tu comprends que tout bien reste un bien. Et donc, en effet, il faut aller vérifier. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais visiter. Hein. Je suis en train de dire que je diffère ma visite dans le temps pour gagner en optimisation et en efficacité. Parce que si je visitais tous les projets dès le moment où on me le présente, je serais H24 en visite et ça serait contre-productif puisque la majorité des projets qu'on me propose ne collent pas aux marchands. Parce que comme je l'ai dit, je deviens exigeant, etc. Donc au final, je serais tout le temps en déplacement, ça me fatigue. Et puis moi, je suis un peu casanier sur mon côté pro. Pas du tout sur mon côté perso, mais sur mon côté pro. J'aime bien être devant mon PC avec la musique. J'adore ces journées-là. Donc je visiterai pour rien. Et alors que si je fais des études préalables avant de visiter, du coup, je sélectionne mes visites. Et là, beaucoup, en fait, le marchand, c'est que des mathématiques. T'as une surface, t'as un prix au mètre carré, t'as un besoin, t'as un problème. tu évalues tout ça, tu mets dans ton Excel, tu fais tes analyses de marché, financières et autres, et tu vois si ça colle. Mais j'ai la chance aussi d'avoir des agents, enfin des partenaires qui sont sur le terrain, qui sont très compréhensifs et qui comprennent ma mentalité. Et du coup, même ils me font des vidéos. Donc en fait, c'est comme si je faisais la visite, mais depuis mon portable.
C'est tes associés qui se chargent de faire la visite ?
Non, même pas. C'est mes partenaires, un agent immobilier, un chasseur de biens.
Ok.
Et ils me font la visite, ils me disent bon bah voilà, là là là. Alors il y en a certains, faut que je fasse gaffe parce qu'ils vont forcément pas me filmer l'angle d'une pièce où il y a, je sais pas moi, un ancien dégât des eaux ou une tache d'humidité. Mais même si on doit le valoriser, c'est pas énorme finalement en termes de coût. Donc j'aurais fait l'étude du projet global. J'ai toujours un delta quand même de sécurité en plus des 20%. Et après bon, gros potentiel ou potentiel, j'y vais parce que faut que je comprenne, faut que je visualise mieux. Là je déclenche la visite, mais c'est très très rare. Et moi je trouve ça contre... Je suis rare, hein, pour en avoir parlé avec des marchands. Dans mon process, il y en a beaucoup qui visitent parce que relationnel à agent immobilier, je suis d'accord avec eux. Mais sur la première visite et sur le premier contact. Mais une fois que l'agent immobilier, tu l'as vu depuis 6 mois et ça fait 6 mois que vous faites du business ensemble.
Ouais, c'est la première fois que j'entends ça, mais je comprends du coup la démarche derrière, ça te fait gagner du temps.
Oui.
Parce que le temps d'y aller, le temps de visiter, tu alloues au moins une bonne heure. Quoi, donc,
totalement.
Ça te fait gagner pas mal de temps de faire comme ça. Et c'est vrai qu'au final, ça a pas une, quand tu y réfléchis, ça n'a pas une énorme valeur ajoutée d'aller sur place, sachant que tu peux te faire une bonne idée du bien à distance.
Totalement, t'as tout compris.
Ok, bah écoute, on va arriver sur la fin. Il sera où, Aymeric, dans 5 ans?
C'est la question, je crois que la plus dure, j'ai du mal à me projeter. Puis tu sais, on a toujours tendance à surestimer notre capacité à court terme et sous-estimer celle à long terme ou moyen terme. Il a des objectifs qu'il veut atteindre, ça c'est sûr, le fameux Aymeric. Là, j'ai horreur en plus des gens qui parlent à la troisième personne.
Ça y est, il a pris la grosse tête.
Mes objectifs dans 3 ans, alors je sais plus dans 5 ans par rapport à mes 30 ans. Je trouve la barre de Saint-Louis des 30 ans, je sais pas. Alors que je suis pas du tout attaché à l'âge, ça a très peu d'influence dans mon quotidien. Mais je me dis, c'est quand même 30 ans. Enfin, t'arrives à un élément majeur, ça fera quasiment 10 ans du coup que j'aurai à peu près commencé. C'est sûr qu'il dépendra plus. Moi, mon objectif, c'est plus être soumis à l'argent et au temps. J'aurai la capacité de, si je veux garder les pieds en éventail sur un transat n'importe où dans le monde, je pourrais. Bon, ça sera pas ça parce que j'ai besoin d'être stimulé, donc même une journée ou une après-midi, ça me tend. Mais c'est sûr qu'en tout cas, j'y serai plus soumis et donc tous mes projets ne seront plus drivés par l'argent. Ça, c'est sûr. Je pense que j'allouerai beaucoup de temps à d'autres projets qui me sont chers, qui sont pas forcément business et lucratifs. Je pense que j'évoluerai. Je pense que j'aurai structuré la partie IMO avec des analystes. Ça sera structuré où je serai que... entre guillemets, sur la prise de décision majeure sur des gros projets, j'aimerais tenter un peu de promotion. Enfin, je veux tout goûter en IMO.
Ce qui te manque aujourd'hui dans ton éventail
Le côté construction-promotion.
Ouais.
Ouais, alors après, c'est... l'île de Ré, par exemple, on a un projet où potentiellement on va faire de la démolition-reconstruction. Okay. Donc, on va y être un peu plus prématurément, mais c'est le gros immeuble de 70-100 logements. On n'est pas du tout dans cette capacité aujourd'hui. Enfin, ça serait trop se mouiller sur un projet qui ne serait pas assez dilué parmi tant d'autres. Et donc, si tous les problèmes arrivent là, ça nous freine. Donc, faut pas brûler les étapes. Mais c'est un truc qui m'ambitionne, enfin, qui me stimule. Et je pense qu'après, j'ai d'autres projets. Le business, d'ailleurs, je la recommande, cette série Bernard Tapie. La reprise d'entreprise m'a toujours aussi stimulé. Donc, pourquoi pas avoir une branche dans ça, tu vois.
Sortir de l'immobilier éventuellement, alors.
Ouais. Je pense que l'immobilier... Enfin, je suis quelqu'un qui s'ennuie aussi très vite. Et je saurai jamais tout. C'est impossible, ça évolue tellement vite, puis tu peux pas tout savoir. Mais au bout d'un moment, t'as fait quand même le tour.
Ouais.
Et encore un besoin, ce côté lassitude et stimulation, je l'aurais pas, donc j'irai voir ailleurs. Mais après, vu que je... Enfin, pour moi, pour l'avoir étudié, la partie marchand et le business aujourd'hui pour se lancer le plus sécurisé et le plus puissant, tu t'augmentes tellement vite quand tu fais bien les choses et tu t'appuies sur l'argent des autres, que je garderai quand même cette branche parce que le parc immobilier français en a besoin aussi. Enfin, tu résous beaucoup de problèmes en étant marchand et puis c'est stimulant. Voilà.
Merci. La France dit merci.
Non.
on a le futur Bernard Tapie. Il faut que je le fasse pour la France. Ça revient beaucoup, ça, dans la série. Je le fais pour la France.
J'ai pas cette prétention et je suis très admiratif de cet homme sur sa vision. Après, son comportement ou autre, on peut ou pas y coller, mais il avait une vision, ce gars, c'est dingue.
Je conseille aussi la série.
Ouais, fort.
Est-ce que, pour terminer, tu conseilles, peu importe le domaine, à donner à ceux qui nous écoutent, une sorte de conclusion?
Ça me rappelle mes années de droit où j'étais nul au niveau conclusion. Moi, je dirais vraiment qu'il faut... j'étais très théoricien puis praticien. Je pense vraiment qu'il faut apprendre avant de se lancer. Mais être un excellent théoricien ne fait pas des excellents praticiens. Et donc, tu as les grandes lignes, tu dois les apprendre dans n'importe quel domaine où tu te lances, sur l'aspect opérationnel, comment ton business intrinsèquement fonctionne, quels sont ses risques, quels sont ses concurrents, etc. D'un point de vue juridique aussi, pour ne pas te faire avoir. Et je pense que c'est vraiment l'atout. Le juridique, tu peux... on l'a vu dans la série Bernard Tapie, sa première association, c'est du juridique pur et dur. Il a juste pas ficelé comme il fallait. Après, ce qu'il avait le choix, c'est autre chose. Et côté fiscal aussi, tu peux, en France surtout, tu peux tellement te faire matraquer. Donc, apprendre comment fonctionne ton écosystème et après juste enclencher et y aller fort. Enfin, pas y aller en je vais mettre le petit orteil pour voir l'eau comment elle est. Non, tu te jettes à l'eau, limite sans bouée, et t'apprendras au fur et à mesure à te faire un radeau avec les éléments que tu trouves. Mais juste, y aller, y croire.
Ouais, c'est comme ça que ça a commencé avec le marchandage de biens.
Ouais.
Tu t'es lancé, mais tout en t'assurant que ça allait être une opération rentable, quoi.
En fait, vu que ma première opération a été en achat-revente non propre et que j'ai goûté c'était plus simple. D'ailleurs, je le conseille avant de faire du marchand. Tant d'un point de vue prise d'expérience que d'un point de vue banque, commencer par l'achat-revente non propre. Il y a des niches comme la résidence principale où tu es exonéré de plus-value, ou le système de achat-revente avant ta résidence principale, tu peux faire une résidence secondaire exonérée. Je laisse le petit tip, c'est aller creuser, mais il y a vraiment une niche. Allez-y, faites-vous la main comme ça. C'est beaucoup plus simple d'obtenir un financement. Vous avez beaucoup moins d'obligations qu'un professionnel. Vous n'êtes pas obligé de vous structurer en pro en plus. L'argent tombe directement sur votre compte. Enfin, vous avez des prérequis qui vous permettent de voir si vous êtes à l'aise. Et après, en effet, pendant le process, vous savez que vous allez aimer, vous voulez accélérer, renseignez-vous avec un expert comptable, un avocat, un notaire, comment ça fonctionne sur une partie pro. Mais après, lancez-vous. Il n'y a que en se lançant qu'on voit.
Lancez-vous, les gars. Ok, merci beaucoup. J'en ai pu en tirer énormément de choses. Tu as apporté beaucoup de valeur. Merci beaucoup, Aymeric.
Avec grand
plaisir. Même moi, ça m'a beaucoup intéressé de connaître un petit peu ton parcours. J'ai appris plein de choses. Merci encore. Si vous voulez suivre Aymeric, le meilleur moyen, c'est d'aller le suivre sur Instagram, je pense.
Oui, totalement.
LinkedIn, peut-être ?
Je vais m'y mettre. Ça va changer. Aymeric Georget, les deux.
Aymeric Georget sur LinkedIn prochainement. Tenez-vous prêts. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite.
Ciao. Merci, Stéphano.